Trois hommes dans un bateau, préface de l'auteur à la première édition, suivi de avertissement et de table des matières. Ce ne sont ni le style ni le savoir qu'il diffuse qui font la qualité essentielle de ce livre, c'est sa vérité. Les événements qui en composent la trame sont réellement arrivés. Je n'ai fait que les colorer sans rien y ajouter. George, Harris et Montmorency ne sont pas des personnages fictifs, mais des créatures de chair et de sang, singulièrement George, qui pèse près de 80 kilos. Certaines œuvres témoignent peut-être d'une plus profonde connaissance de la nature humaine. Il est fort probable que d'autres fassent preuve d'une plus grande originalité, mais aucun ne peut surpasser la mienne dans le domaine de la véracité. Cela, plus que toutes ces autres qualités, rendra assurément ce volume précieux au lecteur attentif et ajoutera au bénéfice que lui en rapportera la lecture. Avertissement. Mon ouvrage a reçu un accueil des plus enthousiastes auprès du public. Les ventes des éditions anglaises ont dépassé le 1,5 million d'exemplaires. Il y a quelques années, à Chicago, un homme d'affaires, aujourd'hui retiré, m'assura que je comptais plus de 1 million de lecteurs et, bien que la publication ait eu lieu avant la Convention des droits d'auteur et ne m'ait donc rapporté aucun bénéfice matériel, je ne peux que me réjouir de la popularité et de la renommée de mon roman. Je crois avoir été traduit dans la plupart des langues occidentales, ainsi que dans plusieurs pays d'Asie. Cela m'a valu des milliers de lettres de jeunes et de moins jeunes, de bien portants et de malades, de gais et de tristes. Adressées de tous les coins de la terre, elles suffiraient à elles seules à me réjouir d'avoir écrit ce livre. J'aurai toujours en mémoire ces feuilles froissées que m'envoya un jeune officier colonial d'Afrique du Sud. Il les avait trouvées dans la musette d'un compagnon mort à Spionkop, lettre testament qui témoigne de manière bouleversante de la portée de mon succès. J'ai commis des livres que personnellement je tiens pour plus intelligents, plus drôles. C'est néanmoins de l'auteur de « Trois hommes dans un bateau », sans oublier le chien, que le public se souvient. Certains critiques ont insinué que le livre devait son succès exemplaire à sa vulgarité et à son absence totale d'humour, mais je doute que de tels propos puissent se tenir encore aujourd'hui. Si une œuvre médiocre peut faire illusion un temps, elle ne saurait séduire des générations de lecteurs pendant près d'un demi-siècle. J'en suis venu à penser, allez savoir pourquoi, que je pouvais être fier de mon ouvrage. Pourtant, je me rappelle à peine l'avoir écrit. J'ai seulement le souvenir d'un jeune homme qui baignait alors dans un contentement de soi aussi béat qu'inexplicable. C'était l'été, et Londres est si belle en été. Par la fenêtre de sa chambre de bonne, ce jeune homme voyait la cité voilée d'une brume dorée. La nuit, les lumières scintillaient à ses pieds, et c'était comme s'il se fût tenu penché sur le trésor d'Aladin. Cette saison-là, je ne quittais pas ma table à écrire. Il me semblait d'ailleurs que ce fut la seule chose à faire. Table des matières. 1. Trois souffreteux. Les misères de George et de Harris. Le patient aux 107 maladies mortelles. Remèdes éprouvés. Du soin des maux de foie chez les enfants. Les surmenés que nous sommes ont besoin de repos. Une semaine sur les flots agités. George propose la Tamise. Montmorency boude le projet. L'idée de George adoptée à une majorité de 3-1. 2. On tire les plans. Plaisir du camping par les nuits étoilées et sous la pluie. Adoption d'un compromis. Premières impressions de Montmorency. Crainte que le projet ne soit utopique et crainte rejetée comme non fondée. La séance est levée. 3. Dispositions prises. Méthode de travail de Harris. Comment mon oncle Podger accrochait un tableau? Une réflexion judicieuse signée Georges. Joie du premier bain matinal. Recommandation de Georges en cas de naufrage. 4. La question nourriture. Objection contre le pétrole en tant qu'atmosphère. Avantage du fromage comme compagnon de route. Une épouse déserte son foyer. Provisions en prévision du naufrage. J'emballe. Malice des brosses à dents. George et Harry s'emballent. Abominable conduite de Montmorency. Allons nous reposer. 5. Madame Poppets nous réveille. George le paresseux. La farce des prévisions météorologiques. Notre bagage. Malice du petit commis. Nous provoquons un attroupement. Un départ en grand style et notre arrivée en gare de Waterloo. Ignorance des fonctionnaires de la Compagnie du Sud-Ouest concernant des questions aussi élémentaires que l'horaire des trains. Sur l'eau dans un bateau non ponté. 6. Kingston. Notes instructives sur l'histoire ancienne d'Angleterre. Remarques philosophiques sur Duchesne sculpté et sur la vie en général. Triste cas du jeune Stevens. Réflexion sur l'Antiquité. J'oublie que je tiens la barre. Résultat intéressant. Le labyrinthe de Hampton Court. Harris fait le guide. 7. Le fleuve en ses atours du dimanche. De l'habillement sur les eaux. Une chance pour les hommes. Absence de goût chez Harris. Le maillot de George. Une journée avec les demoiselles, gravure de mode. La tombe de Madame Thomas. L'homme qui n'aimait ni les tombes, ni les cercueils, ni les crânes. Harris en folie. Ses commentaires sur Georges, les rives et la limonade. Harris exécute des tours. Huit. Chantage. La vraie méthode à suivre. Sans gêne des propriétaires riverains. Les pancartes, attention. Sentiment peu chrétien de Harris. Harris, chanteur comique. Une soirée dans la haute société. Honteuse conduite de deux jeunes voyous. Un renseignement utile. George et son banjo. 9. George est convié à travailler. Malice des cordelles de halage. Fugue d'un skiff en double school. À l'heure et aller. Utilité des amoureux. Étrange disparition d'une vieille dame. Plus on se hâte, moins on va vite. Du plaisir exquis à être allé par des jeunes filles. L'écluse disparue ou la rivière hantée. Musique. Sauvé. 10. Notre première nuit sous la tente. Un appel au secours. L'esprit de contradiction des bouilloires et comment les convaincre. Le souper. Pour se sentir vertueux. Cherche île déserte, convenablement équipée, bien abritée, voisinage océan Pacifique, sud de préférence. Singulière aventure arrivée au père de Georges. Une nuit blanche. 11. Comment Georges, une fois par hasard, se leva de bonne heure. George Harris et Montmorency n'aiment pas l'eau froide. Héroïsme et détermination de la part de Jérôme. Georges et sa chemise. Histoire morale. Harris cuisinier. Aperçu historique spécialement destiné aux écoliers. 12. Henri VIII et Anne Boleyn. Inconvénient d'habiter sous le même toit qu'un couple d'amoureux. Une période éprouvante pour la nation anglaise. Une nuit à la recherche du pittoresque. Sans feu ni lieu. Harry se prépare à mourir. Un ange survient. Effet sur Harry d'une joie soudaine. Un souper frugal. Déjeuner. Manque cruel de moutarde. Une terrible bataille. Maidenhead. À la voile. Trois pêcheurs. Nous sommes maudits. 13. Marlowe. L'abbaye de Bisham. Les moines de Maidenham. Montmorency songe à trucider un vieux matou, mais décide finalement de le laisser vivre. Conduite scandaleuse d'un fox terrier dans un grand magasin. Notre départ de Marlowe. Un cortège imposant. La chaloupe à vapeur, recette pratique pour lui mener la vie dure. Nous refusons de boire l'eau de la Tamise. Un chien pacifique. Étrange disparition de Harris et d'un pâté. 14. Wargrave. Figurine de cire. Sunning. Notre ragoût. Montmorency donne dans le sarcasme. Combat entre Montmorency et la bouilloire. Georges étudie le banjo. Plainte du voisinage et difficultés rencontrées par le musicien amateur. En apprenant à jouer de la cornemuse. Coup de cafard de Harris après le souper. Georges et moi partons en promenade. Nous rentrons affamés et trempés. Harris nous paraît bizarre. Harris et les cygnes, une étonnante histoire. Harris passe une nuit agitée. 15. Tâches ménagères. L'amour du travail. Le vieil habitué de la Tamise, ce qu'il fait, ce qu'il prétend avoir fait. Scepticisme de la nouvelle génération. Premier souvenir de canotage. Le radeau. Brillant début de Georges. Le vieux batelier, sa méthode. Calme et sérénité. Le débutant. Un triste accident. Plaisir de l'amitié. À la voile, ma première aventure. Ce qui probablement nous évita la noyade. 16. Reading. Remorqué par une chaloupe à vapeur. Conduite exaspérante des petits bateaux. Comment il bloque le passage des chaloupes à vapeur. Georges et Harris rechignent au travail. Une histoire plutôt banale. Streatley et Goring. 17. Jour de lessive. Poissons et pêcheurs. De lard amorcé. Un consciencieux pêcheur à la ligne. Une histoire de pêche. 18. Écluse. On nous prend en photographie Georges et moi. Wallingford, Dorchester, Abingdon, un bon endroit pour se noyer, un passage difficile, effet démoralisant de l'air fluvial. 19, et dernier, Oxford, le paradis selon Montmorency, grandeurs et servitudes du canot de location, la gloire de la Tamise, le temps change, le fleuve sous ses différents aspects, une soirée peu joyeuse, aspiration vers l'impossible, nous bavardons gaiement, Georges joue du banjo, une mélodie funèbre, deuxième jour de pluie, la fuite, petit souper, grand toast. Fin.